Un bâtiment avec Marjolaine Meynier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
Bonjour à tous, c'est reparti pour un nouveau Bâti Moment sur Bâti Radio. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de l'actualité du bâtiment, bien sûr, de la construction, de la rénovation énergétique, de l'aménagement du territoire, de développement durable et puis de protection de l'environnement, parce que tous ces sujets sont liés. Cette émission, je le répète systématiquement, mais c'est ces filières qui ont un énorme défi à relever pour nous sortir de l'impasse climatique dans laquelle on s'est fourré. Alors, sans transition, j'accueille mon invité du jour, Guillaume Perrin. Bonjour.
Bonjour Marjolaine.
Alors, vous êtes ingénieur de formation avec une expertise d'accompagnement de projet issue de Sciences Po, spécialiste des ENR. Vous avez travaillé auprès de l'ADEME. Vous êtes actuellement en charge de la transition énergétique au sein de la FNCCR. Vous allez nous expliquer tout de suite ce que c'est. Créateur et coordinateur national du programme ACTE, ça aussi on a besoin de savoir ce que c'est. Et puis vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment un sur la rénovation énergétique des bâtiments, paru chez Duno tout récemment. Félicitations.
Merci.
Alors on commence toujours, Guillaume, avant de rentrer dans le dur du sujet, par une anecdote. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là ? Expliquez-moi votre chemin de conséquences, d'anecdotes, etc. qui fait que vous êtes tombé dans la marmite du bâtiment.
Alors c'est assez drôle puisque dans ma formation à la fois en ingénieur et en Sciences Po, j'étais plutôt orienté sur tout ce qui était microélectronique, gestion des différentes ondes, gestion des différents appareils permettant de suivre la visibilité qu'on a sur le bâtiment potentiellement, mais aussi et surtout sur des dynamiques de géothermie, d'organisation, de transmission de signaux, vidéo, etc. en téléphonie. Et puis absolument rien à voir. Il se trouve que j'ai eu dans le projet Sciences Po, il s'agissait de voir comment est-ce qu'on accompagnait une dynamique de gestion de projet et l'aboutissement d'un projet en tant que tel, et ça a été la dynamique d'un bâtiment BEPOS, en l'occurrence, sur une zone à Grenoble qui est en plein développement, le projet Giant, donc vraiment un gros développement avec le CEA, un certain nombre d'entreprises, ST Microelectronics, etc. Et il s'agissait de concevoir un bâtiment tertiaire à énergie positive. Et donc j'ai été amené à m'intéresser à ce sujet-là, à produire, à travailler avec un certain nombre de corps de métiers et de réflexions à ce propos. C'était extrêmement enrichissant, c'était une première porte d'entrée. Puis cette expérience-là, je l'ai mis un petit peu en sommeil pendant 5-6 ans, pendant mon expertise à l'ADEME, où j'ai plutôt travaillé sur les énergies renouvelables thermiques en particulier. Et à chaque fois, en me heurtant à la porte du bâtiment, en disant « il faut qu'on aille voir à l'intérieur pour savoir ce qui se passe vraiment, pour être encore plus performant dans l'approvisionnement par les réseaux de chaleur ou autre ». Et c'est à ce moment-là où, en arrivant à la FEDE, j'ai vu qu'il y avait une petite opportunité de rentrer dans le domaine du bâtiment en complément de ce que je faisais sur les énergies renouvelables. J'avoue avoir sauté dessus en portant le programme ACTE notamment.
Ah mais c'est vraiment ça en fait, hein. On passe de la théorie à la pratique quand on vient dans le secteur bâtiment.
Hein. C'est ça, exactement.
Ça. Je crois que vous avez ce plaisir de faire des choses concrètes.
C'est ça, c'est ça.
Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que la FNCCR et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors la FNCCR, c'est la Fédération Nationale des Collectivités. Ça rassemble un peu plus de 850 collectivités en France, de tout type. Des petites collectivités très rurales, isolées, jusqu'à des très grosses métropoles, départements, régions, interco, syndicats d'énergie. Donc vraiment tout type de collectivités, rurales comme urbaines et toute taille en l'occurrence. Et on agit dans différents domaines. Donc l'énergie dont je m'occupe, avec le bâtiment plus particulièrement, qui est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Tout ce qui va être réseau d'eau et d'assainissement, réseau numérique, économie circulaire, déchets. Énormément de champs qui sont touchés par les collectivités, notamment en termes d'aménagement du territoire. Je sais que c'est un des thèmes de l'émission, justement, qui permet effectivement de structurer l'espace public. Et donc, on va travailler en accompagnant les collectivités, donc sans se substituer aux AMO. Là, il y a un secteur qui est assez dynamique pour faire le travail. On va plus être en conseil ponctuel, en lobbying, représentation des collectivités au niveau national, et puis porter la dynamique, notamment dans le secteur du bâtiment, par la mise à disposition de ressources, de colloques, de groupes de travail, de cahiers des charges types pour les collectivités, pour lancer des marchés et passer à l'action en tant que telle, via notamment le programme ACTE.
Alors, si je comprends bien, c'est un petit peu l'interface entre l'écosystème des élus locaux et les sujets concrets qui occupent nos filières.
C'est
vous
exactement
êtes
ça.
Une passerelle entre les,
Tout
entre
à fait.
Les deux mondes.
On a un côté vraiment passeur, on a un côté catalyseur, aider à cette compréhension d'un certain nombre d'enjeux, vous le disiez très bien en introduction par rapport aux enjeux climatiques qui sont réels. Et on a beaucoup de questions, on arrive au niveau de l'élu qui a saisi cette importance d'agir et parfois avec des questions en disant concrètement par quoi je commence.
Et oui, parce que c'est une sacrée responsabilité quand on est élu et qu'on se retrouve avec cette patate chaude dans les bras là, faut tout d'un coup s'occuper de ces bâtiments communaux. Dans une commune rurale, vous l'avez dit, il n'y a personne pour le faire à votre place.
Exactement.
Vous n'avez pas d'experts techniciens pour vous accompagner et vous vous retrouvez à dire mince, là ce bâtiment il est très énergivore, qu'est-ce que je dois faire, ou là tiens mince, le toit de l'église l'église, il va me tomber sur la tête, qu'est-ce que je dois faire ?
C'est ça, exactement. On peut très vite ressentir un certain isolement, lorsqu'on parle d'isolation, si on me permet, c'est rapide, parallèle.
L'isolation et l'isolement, oui.
Ouais, c'est une thématique assez forte du côté notamment des élus ruraux, mais également au niveau de la métropole, à savoir quel axe de stratégie on prend. La première étape, en connaissant déjà son patrimoine, c'est déjà une étape pour beaucoup d'élus avec un patrimoine diffus assez large en l'occurrence. Ensuite, il y a l'étape de connaître l'état du bâtiment, puis les usages du bâtiment, sachant qu'un bâtiment, quel que soit le secteur, public comme privé, ça évolue en permanence. Donc, il n'y a pas une photo à prendre à un moment T, il y a une photo, mais surtout à la mettre en perspective avec le passé et surtout l'avenir de l'occupation du bâtiment. Et ça, c'est un vrai enjeu pour les élus locaux dans la gestion de leur patrimoine direct et dans la visibilité qui est offerte au niveau des citoyens. Il y a vraiment une appétence assez forte sur qu'est-ce que je fais de mon bâtiment, avec une approche qui peut être certes énergétique pour guider la rénovation en tant que telle, mais qui peut être aussi complémentée d'une approche beaucoup plus large de gestion patrimoniale, de gestion de qualité du bâtiment et de l'ensemble des externalités qui s'en suivent.
Oui, parce qu'effectivement, les problématiques qui se posent, malheureusement, c'est souvent, et quand on prend le prisme des plus petits, les plus petites communes, la problématique, c'est encore une fois pas beaucoup de compétences techniques au démarrage, enfin, un appétit ou un hasard, parce qu'on va chercher des fois dans son équipe municipale celui qui a un peu des compétences sur le sujet par son biais professionnel, souvent. Mais malgré tout, c'est pas facile de créer sa feuille de route patrimoniale. Et puis surtout, on est contraint par la succession des tuiles qui nous tombent sur la tête, hein, concrètement. Hein. C'est les pannes qui vont souvent c'est dicter ça. Plus qu'une programmation planification c'est qu'on ça. Pourrait vouloir.
Exactement.
Et donc, c'est là où rentre le programme ACTÉ.
C'est l'un des buts principaux, effectivement, de chercher à créer de la mutualisation, partager l'expertise entre collectivités. Parce qu'effectivement, en tant que commune individuelle, on n'a pas forcément intérêt à mettre en place un ingénieur expert de l'énergie. On aura déjà du mal à le recruter par rapport au cadre contractuel des collectivités, au contrat qu'on peut proposer, et on aura du mal à justifier son poste si on a un patrimoine d'une quinzaine, d'une vingtaine de bâtiments. En revanche, si on agrège, c'est un peu une approche de goutte d'eau que je pourrais partager avec vous, plusieurs gouttes d'eau, on commence à avoir une flaque, un lac en tant que tel, et là, ça vaut le coup de mettre en place un bateau pour traverser le lac, en l'occurrence un ingénieur gestionnaire des fluides en particulier, pour pouvoir faire ce lien et dire, là, je passe d'un parc de 10 bâtiments assez isolés, à 30, à 40, à 50, à 200, 300. Là, il y a un double effet, le poste d'expert qui va justement permettre de catalyser les différents financements, le passage à l'action, il est là, aider à rédiger les cahiers des charges, à passer les marchés, en complément évidemment des AMO et des maîtres d'œuvre par la suite qui prennent la suite, et également avoir un effet levier prix. C'est pas du tout le même type de résultat lorsque vous faites une commande en termes d'opérations pour isoler vos combles, lorsque vous avez 3-4 bâtiments, que lorsque vous en avez une centaine, comme c'est le cas avec des opérations type cocon.
Donc votre objectif, alors ACTÉ déjà, est-ce que ça a un nom, une raison pour laquelle cet acronyme, ça veut dire quoi ?
Alors l'acronyme, effectivement, il a une signification, c'est justement l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique.
Et puis ACTÉ, c'est plus clair.
Tout de suite, c'est plus clair, ça aide effectivement à la compréhension.
Ça va mémoriser, les gens qui nous écoutent maintenant sauront ce que c'est ACTÉ.
C'est ça, mais rien en tant que tel, il est aussi porteur en tant qu'acronyme parce qu'on aide à passer à l'acte. Et c'est vraiment la philosophie qu'on a. On aide aux collectivités à quantifier, qualifier leurs bâtiments par des postes d'économes de flux, par du financement de métrologie, de comptage, d'audit, de stratégie immobilière en tant que telle. Et justement, c'est cet financement de l'ingénierie, de l'aide au passage à l'acte qui permet de dire, bon allez hop, je passe au marché, je passe avec des contrats avec mes entreprises, groupées de manière générale au niveau du territoire ou de manière plus large aussi par rapport aux appels d'offres qui peuvent être faits pour passer vraiment à l'action de la rénovation énergétique. Donc c'est à la fois massifier, donc toucher un maximum de collectivités et passer à l'acte en termes de catalyseur. Je peux peut-être préciser un petit point, dans le programme ACTÉ, on ne dit pas priorité à ceux qui ont déjà tout finalisé. On ne dit pas non plus priorité à ceux qui ne connaissent rien. On dit on accueille toutes les collectivités, quel que soit votre stade d'avancement, pour vous dire si vous êtes vraiment à la vision première en tant qu'élu en disant j'ai compris, la transition énergétique c'est d'abord moins consommer, donc le bâtiment, mais par quoi je passe ? Et donc là on intervient en termes d'ingénierie, d'accompagnement pour préciser le projet et en financer une partie. Ou bien en tant qu'expert sachant du domaine, j'ai déjà fait un schéma directeur immobilier énergie, j'ai déjà une visibilité, j'ai déjà une centaine d'audits qui est fait. Par contre j'ai besoin d'aide pour montrer un groupement de commandes, un marché groupé ou des choses comme ça. Et là, on intervient aussi en aide à la structuration financière de ce type de prestations.
Et alors, du coup, concrètement, ACTÉ, ça coûte combien aux élus qui veulent y rentrer, qui veulent bénéficier de ces conseils ?
Nous, on a reçu un programme C2E, des certificats d'économie d'énergie, et on a fait un appel à financeurs qui nous a permis de lever 100 millions d'euros. Sur ces 100 millions d'euros, on a redistribué plus de 90% directement aux collectivités, donc de tout type, communes, interco, syndicats d'énergie, agglomérations, métropoles, etc., etc., pour financer justement les différents aides au passage à l'acte, donc un poste d'économie de flux, donc un spécialiste à l'échelle mutualisée de collectivité qui va permettre de suivre les différentes actions mises en place en amont, pendant les travaux et post-travaux aussi, parce qu'il s'agit de suivre en permanence les actions qu'on va faire. Exactement. Tout ce qui va de métrologie, audit, schéma directeur immobilier énergie pour avoir cette approche patrimoniale en tant que telle. Et puis également, ce qu'on va trouver en termes de maîtrise d'œuvre à ce niveau-là. Et grosso modo, il y a un reste à charge d'un peu moins de 50% pour les collectivités sur les quatre postes que je viens de décrire. Acter, c'est quantifier avec, cadencer, pardon, avec un certain nombre d'appels à projets, mais aussi de sous-programmes qui vont aider tout le long de la vie du bâtiment. Donc Acter, c'est beaucoup sur l'extérieur, le bâtiment, mais on vient de lancer par exemple un sous-programme avec nos collègues du CEREMA et l'IFEP qui s'appelle Cube École en l'occurrence, qui vise à travailler sur l'usage intérieur au niveau des écoles en faisant des challenges avec l'équipe pédagogique, avec le public scolaire qui est dedans, de manière à travailler sur moins consommer et essayer d'entraîner ensuite des actions d'économie d'énergie.
Alors du coup, pour les élus qui écoutent, peut-être notre émission Bâtiment ce matin, et sinon qui seront peut-être... Mais ceci dit, ils seront sûrement reliés par les artisans qui, eux, écoutent et qui, eux, pourront faire le lien, effectivement.
On cherche à, justement aider aussi à faire sortir un certain nombre d'opérations. C'est là qu'est le lien direct avec les artisans et avec la filière du bâtiment en tant que telle. C'est que là, on avait beaucoup de projets en dormance et puis des objectifs qui sont très ambitieux mais qui n'avancent pas aussi vite. Acter, c'est le côté catalyseur. Donc très concrètement, nous, on est aussi évalué vis-à-vis du ministère par rapport au nombre de marchés publics qu'on va sortir à l'issue de l'accompagnement d'Acter, avec un taux de passage à l'acte qui est obligatoire d'au moins 50%. Donc concrètement, on fait émerger un marché qui n'existait pas avant dans l'intérêt de l'efficacité énergétique, et on espère que l'ensemble de l'écosystème, notamment les artisans, mais également les professionnels du bâtiment dans leur ensemble, pourront répondre, rentrer dans cette dynamique, avoir de nouveaux marchés, et on va tous ensemble, de cette manière-là, en bon partenariat, vers une meilleure efficacité énergétique.
Alors, parce que quelque part, là, les élus ou les professionnels, ils peuvent avoir une inquiétude commune à avoir comme ça un tiers qui vient faire de la prescription ou du conseil, etc. C'est les élus, ils ont peur de mettre les doigts dans une machine et de se retrouver dans un programme qui va les dépasser et ils n'auront pas les moyens de payer, parce que malgré tout, il y a une part quand même qui leur incombe, même si quand même 50% d'accompagnement, c'est non négligeable, enfin, je dirais, absolument. Faut le dire. Mais quand même, il faudra mettre un peu au pot aussi à leur niveau. Et ça, du coup, ils peuvent avoir peur de rentrer dans la dynamique. Et côté artisan, ils peuvent avoir peur que, en gros, ce conseil, ils viennent freiner les travaux, que freiner la décision, et qu'en gros, ce soit finalement à la cinglingling qu'on ait enfin la mise à l'action, quoi.
Non, c'est pas le cas.
Qu'est-ce qu'on répond à ces deux objectifs?
Peut-être deux éléments. D'abord, le fait qu'on ne prend pas la place d'AMO, de prescripteurs locaux. On va accompagner la structuration du projet, mais on va laisser ensuite la main à la dynamique de la collectivité avec les accompagnateurs qu'elle choisit pour concrétiser son projet. Le deuxième élément aussi, c'est qu'on reste dans une philosophie porté par une fédération de collectivités. Et donc, on est issu pour partie des collectivités, on connaît les problématiques locales et on essaie de mettre en place tous les éléments qui permettent de ne pas freiner ce passage à l'action. Très concrètement, on a un principe de mutualisation entre collectivités. Quand vous êtes en collectivité, vous n'avez pas le droit individuellement de candidater à Acter. En revanche, on dit mutualisez-vous, travaillez avec une collectivité voisine de votre choix. Et on n'impose pas la maille de mutualisation, c'est-à-dire qu'on ne dit pas il nous faut 800 bâtiments minimum, il nous faut un bassin de vie de 125 000 habitants, il nous faut autant de surface mètre carré chaune ou des choses comme ça, à vous en tant que collectivité de candidater avec la meilleure maille projet justement. Donc on ne cherche pas à faire des alliances contre nature, parce qu'on sait que parfois ça peut être délicat pour plein de raisons locales, stratégiques, politiques, de faire travailler des collectivités ensemble. D'autres fois, au contraire, et c'est ce qu'on encourage, c'est de faire un bon effet catalyseur en mutualisant, et c'est un peu cette philosophie où on dit mutualisez-vous, par contre on n'impose rien, à vous de nous donner la meilleure maille.
D'accord. Donc, un effet d'accélérateur, finalement, pour les territoires.
Exactement. Et de massification. C'est un peu la visée qu'on a dans Acter. On touche à un peu plus de 15 000 communes à l'heure actuelle sur Acter, des différents programmes. On va continuer. On a encore deux appels à programmes qui sont en cours et
donc,
encore trois
programmes. Donc, pas encore un programme saturé. On peut encore candidater.
On peut encore candidater.
En parler à sa collectivité locale.
Exactement.
Quand on est artisan, on peut aller voir son maire en disant il faut que tu te renseignes sur Acter.
C'est ça. Et on a une quinzaine de collaborateurs qui sont dédiés justement à l'accompagnement local pour aider à structurer le projet, aider la collectivité à bénéficier de ces fonds qui, encore une fois, leur sont directement destinés. C'est en ce sens qu'on a monté le programme.
Bien, merci pour toutes ces explications sur le programme Acter. On va arriver à la clôture de l'émission. Du coup, un petit mot pour la jeunesse qui nous écoute. C'est toujours comme ça qu'on termine cette émission. On se dit que avec tous les enjeux qui sont devant nous, on va avoir besoin massivement de jeunes qui viennent rejoindre et grossir les rangs des professionnels de la rénovation énergétique, etc. Est-ce que vous avez un mot sur ces sujets et pour eux?
Je pense que c'est intéressant de travailler dans ce secteur-là, d'abord pour avoir un sujet, de trouver un sens à son métier. Et c'est assez compliqué, notamment pour les jeunes générations, de se dire « je participe à une cause un peu plus grande que moi et j'apporte un élément ». Et ça, la rénovation énergétique via insérer dans la cause de l'efficacité énergétique, c'est un point important. L'autre élément, c'est que le secteur innove aussi, est dynamique et recrute énormément tout corps de métier confondu en l'occurrence. Et c'est ça qui est intéressant, de pouvoir travailler à l'échelle du projet bâtimentaire. On interagit avec un certain nombre de corps de métier. On est en train de voir une évolution de la figure du maire vers le maire construct-bâtisseur, vers le maire rénovateur. Et donc le secteur dans la rénovation tertiaire, mais pas uniquement, il y a énormément d'objectifs extrêmement importants dans la rénovation du logement, est très présent. Donc tous ces métiers-là, ils se retrouvent au niveau du bâtiment. Peut-être un focus sur un métier particulier qui est le rôle justement de conseiller, d'accompagnateur, qui est notamment l'économe de flux, le conseiller en énergie partagée ou autre, qu'on va pouvoir retrouver. Il y a 300 postes qu'on ouvre via le programme Acté à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine, globalement, en termes d'ouverture de postes. Et on attend des nombreux candidats. Et c'est sur toute la France, commune rurale, comme grande commune urbaine. Et c'est qu'une toute petite goutte d'eau par rapport à l'ensemble des corps de métier qui en sont accessibles aux jeunes dans cette catégorie du bâtiment.
Et quelles compétences particulières il faut pour postuler aux 300 postes, là ? C'est quel profil vous recherchez ? Parce que soyons précis.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, différents types de profils, puisque les postes vont être adaptés à la maille du projet porté par les collectivités. Donc, ça peut être à la fois des thermiciens, à la fois des gens qui vont travailler de manière plus précise sur le diagnostic des bâtiments dans leur ensemble, ceux qui vont avoir des compétences en acoustique, en extrapolation, pardon, en changement, tout ce qui va être double vitrage, isolation ou autre. Donc, c'est vraiment très, très large. C'est un poste de conseiller des collectivités sur tous les scopes qui vont toucher à la rénovation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, la rénovation énergétique...
Il faut avoir quand même une petite expérience sortie d'école.
Alors oui et non, dans le sens aussi où on est en train de mettre en place un parcours de formation qui sera visible à partir de janvier pour aider à la conversion de ceux qui souhaitent aller vers ce type de métier-là. Donc c'est pas... Si vous sortez d'une formation microélectronique, au hasard, pour prendre un exemple particulier, voilà, c'est ça, vous pourrez avoir accès à ce panel de formation en libre accès et donc pouvoir répondre à ce type de poste-là. Donc à la fois que vous sortiez de formation initiale, ou qu'on passe dans une logique de formation continue et qu'on a envie de faire autre chose et d'aller vers ce secteur-là.
Ah oui, donc en fait, on peut, à partir du moment où on a l'appétit, on peut y aller.
En gros, la motivation fait tout sur ce type de poste-là, parce qu'il va falloir aller chercher des bâtiments, être dynamique, et en gros, c'est la motivation première. Nous, on donnera tous les outils qu'il faut justement aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, qui souhaitent s'engager vers cette cause-là, pour pouvoir rentrer dans leur poste et avoir une vision large du bâtiment.
Bah, message passé, des métiers donc en pleine expansion, qui recrutent et qui recrutent très, très concrètement. Donc à nouveau, pour nos éditeurs, je le redis, Guillaume est l'auteur de plusieurs ouvrages vraiment intéressants sur les sujets des réseaux de chaleur notamment, et puis donc rénovation énergétique, et puis d'autres, j'en oublie.
Rafraîchissement urbain,
rafraîchissement
notamment, tout ce qui est confort d'été.
Également, le confort d'été. Et vraiment intéressant à lire, je vous les recommande, ils sont parus chez Dunod. Merci Guillaume d'avoir été avec nous pour ce bâti moment, et au plaisir de vous retrouver.
Merci à vous Marjolaine, et merci aux éditeurs, à votre service pour continuer l'échange, quelle que soit la forme. Bonne journée.
Bonne journée.
Un bâti moment avec Marjolaine Meignet-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.